Alors, moi, je vous remercie, chers collègues, et je vous retrouve. Donc, je vous parle depuis Conakry, hein, depuis 2 ou 3 jours pour des questions d'autonomisation des femmes et des jeunes par le travail. Hein, c'est ça qui est le lien qu'il y a entre mon travail académique et ce que je suis en train de faire ici à Conakry. Vous m'avez proposé ce sujet de réflexion que j'ai essayé de formuler en parlant de forme juridique et mode de rétribution du travail avant le salariat moderne en Afrique de l'Ouest. Je vais articuler mon discours autour de 2 points à la suite de l'introduction. C'est de passer en revue les activités agro-pastorales et l'organisation du travail en Afrique de l'Ouest. Et en deuxième point, passer en revue la diversité des statuts, des contrats et des formes de rétribution des travailleurs en relation avec les activités agro-pastorales. Donc, voilà les 2 points. Alors, donc, ce que j'ai dit en introduction, c'est de considérer que l'étude des formes juridiques du droit du travail a longtemps privilégié l'ère du salariat moderne pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'il y a eu l'ampleur des luttes sociales liées à l'essor du syndicalisme et des organisations sociales. Et la deuxième raison, du point de vue du milieu académique, il y a eu négligence des formes du travail capitaliste. Alors, moi, je vous propose donc d'amorcer cette conversation sur les formes juridiques de relations de travail codifiées, appelées formes traditionnelles ou plutôt coutumières. Cette catégorie est à ranger dans ce que nous appelons les connaissances implicites, non écrites, résultant d'accords entre contractuels, si je peux utiliser ce terme-là. Alors, il s'agit de relations de travail établies au cours des âges sur la base de ce que nous pouvons appeler une rationalité qui reconnaît la différence de statut entre possesseurs des moyens de production et détenteurs de la force de travail et se souciant relativement d'une certaine justice sociale. On peut toujours s'interroger sur les formes sous-jacentes d'exploitation et en même temps les formes qui expliquent peut-être pourquoi quelqu'un pourrait constituer le moteur de changement. Alors, la première partie, ce sont les activités agro-pastorales et l'organisation du travail en Afrique de l'Ouest. Je ne vous apprends rien en mettant l'accent sur le fait que l'agriculture est ici une des premières formes d'activité économique et elle est restée l'activité dominante. C'est une activité ouverte à tout le monde, sans exclusive. La majorité de la population s'attelle à l'agriculture et elle a une vertu, c'est que elle honore celui ou celle qui l'exerce. Elle ne fait déroger personne. Parce que c'est cette agriculture, c'est cette activité, ce travail qui assure l'indépendance de l'individu qui s'y consacre. Mais la contrepartie, c'est que c'est l'effort, l'exigence d'effort et la fatigue pour le fait d'être agriculteur. Voilà pourquoi on considère que l'agriculture est effectivement un labeur pénible. Et la terre reste le principal moyen de production qui est assuré à chaque famille qui met en valeur une parcelle ou un champ pour sa subsistance. Et je crois que nous sommes là dans le concept très important d'une économie de subsistance qui explique l'orientation majeure. Alors, ce travail dans le travail, l'agriculture, qui implique une activité fatigante, il faut braver la chaleur, il faut sacrifier au rituel du travail de la terre, et c'est ça qui constitue le trait marquant de l'agriculteur. Mais un autre élément très important pour expliquer aussi la particularité de l'agriculture dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il s'agit d'une activité saisonnière. Elle dépend soit de la pluie pour la période dans la zone sahélienne du mois de juin à novembre, ou alors cela dépend des crues des fleuves. Et sont c'est à l'issue des crues des fleuves que les terres sont libérées pour pouvoir être cultivées, et cela intervient dans la période de novembre à février. Alors, le cadre de l'économie domestique dans cette vie rurale se compose sur l'unité de production familiale. Et cette unité de production familiale mobilise en premier les membres de la famille en âge de travailler. Couvert dans le numéro spécial de présence africaine consacré au travail en Afrique, note que dans de nombreuses sociétés d'Afrique noire, le travail apparaît comme une tâche collective, familiale ou communale, ayant pour objet la production de la nourriture. La valeur travail est estimée le plus souvent en aliments distribués par les chefs de travaux, et seul l'usage récent de la monnaie bouleverse maintenant ce système traditionnel. Donc, on voit bien que nous sommes loin encore du dispositif où le travail est individuel, individualisé, et où l'organisation du travail obéit à des normes industrielles ou semi-industrielles. L'unité de production reste ici la famille, ou alors, dans un autre cas, reste une collectivité, un groupe ou une activité communale. C'est une production domestique qui se définit comme un service qui se rend, s'échange et s'évalue dans le cadre de l'organisation familiale. Donc, tout un système d'évaluation, de codification, doit prendre en compte ce fait que nous ne sommes pas encore dans le cadre d'une économie de profit, mais nous sommes dans le cadre d'une économie de subsistance et dans le cadre où les produits s'échangent, et s'échangent non pas encore sur une base monétaire, mais davantage s'échangent sur une base d'éléments de la nature. La famille reste la base de l'économie domestique. Donc, l'organisation du travail devient tributaire des rôles assignés à chacun de ses membres. La responsabilité de l'entité familiale, qui est la base de l'économie domestique, échoit à l'homme qui a une double fonction. C'est la fonction de protection de la famille, c'est la fonction d'entretien de la famille pour pouvoir assurer sa reproduction. Le statut des femmes est clair dans le cadre de l'économie domestique. Les femmes sont des sujets dépendants. Elles constituent une partie de la réserve de main-d'œuvre du chef de famille. Et malgré le poids que fait par la ligne maternelle, les femmes sont considérées comme inférieures. Qu'en est-il des enfants? Les enfants, une partie de la main-d'œuvre familiale, ce sont les enfants. Il s'agit surtout des enfants de l'âge à peu près entre 12 et 25 ans, même s'il est possible qu'il y ait des enfants un peu plus jeunes qui accompagnent les parents, d'avoir des adolescents dans la tranche d'âge de 12 à 24 ans, ou de jeunes hommes, pour pouvoir travailler avec les parents en appoint à support. Le socle de la main-d'œuvre et de l'organisation du travail repose sur le père de famille, le chef de famille, et ce chef de famille mobilise en premier ses enfants, sa femme ou ses femmes, généralement dans milieu rural, c'est surtout le système de la polygamie. Et au-delà, malgré l'importance que les femmes ont du point de vue de la transmission du pouvoir par voie matriarcale, elles restent une catégorie dépendante. Compte tenu de cette main-d'œuvre familiale, il y a une assignation des tâches qui tient compte du fait que le travail est pénible, le travail à l'agriculture est pénible, et donc il y a une prise en compte de la pénibilité pour que les tâches les moins pénibles soient organisées en fonction du sexe ou en fonction de l'âge, compte tenu des activités qui sont déployées par le chef de famille. Donc, je termine avec cette première partie, pour situer l'activité dominante qui est l'agriculture. On aurait pu en dire la même chose à propos de l'élevage. Ici, il s'agit essentiellement d'un travail des hommes qui accompagnent les troupeaux à la recherche de pâturage. Et ici, c'est véritablement la marche qui apparaît comme un élément très, très, très important. C'est un travail beaucoup plus individuel que l'agriculture qui appelle une main-d'œuvre mieux organisée et plus diversifiée. Passons en revue dans cette deuxième partie la diversité des statuts, des contrats et les formes de rétribution des travailleurs. Alors, si on passe en revue ces statuts, je les liste ainsi. Nous avons la main-d'œuvre familiale. Au-delà du père de famille, il y a les enfants et les femmes. Il y a les dépendants ou les sourgues, nous y reviendrons. Il y a les esclaves. Il y a les travailleurs saisonniers ou dans la zone ouest africaine qu'on appelle les navetans. Nous avons aussi, à côté de l'agriculture, nous avons l'artisanat. Et les artisans apparaissent comme effectivement des travailleurs indépendants avec une relation particulière dans le processus de formation avec faisant appel à des apprentis. Nous avons le travail collectif et nous avons les travailleurs forcés qui sont un peu la lisière du travail, à la lisière du travail salarié. Donc voilà en revue la diversité des statuts que je vais passer en revue. Dans l'ensemble, le système de rétribution est une rétribution non monétaire. Nous sommes dans l'ère de la rétribution non monétaire en nature, alors que dans le cadre du salariat, nous nous inscrivons dans le cadre d'une économie monétarisée dominée par les relations professionnelles contractualisées. Ça, c'est une particularité très importante de tout le système, disons, pré-capitaliste, si on veut dire, en tout cas pré-moderne, pré-salarial. La main-d'œuvre, du fait que c'est une main-d'œuvre, le travail est pénible, il y a la possibilité qui s'offre pour qu'on puisse faire du louage de main-d'œuvre, faire appel aux travailleurs saisonniers, aux navetans, à toutes ces personnes, toutes ces catégories que j'ai énumérées tout à l'heure, les dépendants, les esclaves. Mais si on fait appel à cela, cela révèle un statut de la personne qui les emploie et cela est révélateur d'un signe de confort social ou d'aisance économique. Ce ne sont pas seulement les hommes qui peuvent se permettre ce luxe, mais les femmes aussi peuvent se faire aider et employer dans leur champ des travailleurs qui seront payés pour chaque demi-journée consacrée aux travaux agricoles et se voir offrir un déjeuner. La main-d'œuvre familiale, les femmes et les enfants. Il faut noter que si les femmes ont joué cette fonction de main-d'œuvre d'appoint, cela s'est accentué et leur marginalisation a été davantage constatée avec l'introduction des cultures commerciales, en renforçant leur statut de main-d'œuvre d'appoint. On y reviendra dans les discussions. Les femmes et les enfants sont rétribués en nature. Ils vivent sous le toit paternel et sont nourris et se voient attribuer une partie des récoltes qu'ils peuvent revendre et disposer ainsi de ressources propres. Donc, en tant que main-d'œuvre d'appoint, la contribution à la production n'est pas une contribution gratuite. Cela, bien sûr, rentre dans le cadre de la logique de l'économie domestique, mais du point de vue des règles qui s'y est implicite, à la fin de la récolte, le père de famille a une obligation morale de pouvoir attribuer une partie des récoltes. Et cela permet donc de créer les conditions d'autonomisation, les conditions de satisfaction d'un certain nombre de besoins. À côté des femmes et des enfants, nous avons dans la maisonnée ce qu'on appelle les dépendants, ou si on emploie un concept local, en Sénégambie, les sourgues. Du point de vue de l'appellation, le sourgueux, l'appellation signifie ce que l'on rassasie, ce que l'on nourrit, ce que l'on nourrit. Mais on les nourrit pourquoi? On les nourrit avec une obligation à travailler. Donc, il y a là un rapport de mobilisation de la main-d'œuvre fondé sur un lien de dépendance qui a une contrepartie de pouvoir assurer la nourriture, le logement et un ensemble de services qui sont nécessaires. Donc, ce sont des gens entretenus, des gens nourris, c'est-à-dire à la charge alimentaire du chef de carré qui sont dans la maison. Ils sont sous l'autorité de ces chefs de famille et ils vivent sous le toit de la maison. Qui sont-ils? Ce sont des jeunes gens célibataires généralement, mais ils peuvent aussi être des mariés, il reviendra. Ils sont une sorte de clientèle du chef de famille. Ils sont soit des esclaves, mais ils peuvent être des hommes libres qui servent dans l'entourage du chef. Ils peuvent être des membres de la famille, soit ils sont des frères, des fils ou frères cadets de chef de famille. Et ils sont, ce qui est surtout important, c'est qu'ils sont tenus à lui à des obligations de travail précises, en contrepartie de la nourriture, de l'entretien, du logement, la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les esclaves. Les esclaves, ils ont un statut assimilable aux sourgues du fait qu'ils sont dépendants. Ils vivent chez le maître, ils sont nourris, ils travaillent pour le maître. Ils peuvent bénéficier d'une situation négociée et le chef leur permet de fonder leur foyer et de les accompagner dans ce processus d'autonomisation. Cependant, leur statut ne change pas. En tant qu'esclaves, ils doivent 3 ou 4 demi-journées de travail au maître. Le maître leur assure un lopin de terre qui leur permet de pouvoir développer leurs propres activités, de pouvoir gagner et de pouvoir également produire des moyens d'autonomie. En fonction du statut et des négociations, l'esclave peut être autorisé à migrer pour aller gagner l'argent, pour se racheter, ou alors, et dans certains cas, il peut aussi profiter de ces nouvelles activités de travailleur ou d'employé domestique sur une autre circonscription pour rompre de façon unilatérale les liens de servitude. Et nous avons dans les nouvelles villes qui se créent, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à Bamako, que ce soit à Dakar, ce mouvement vers les villes de gens qui étaient d'anciens captifs qui reconstituent une nouvelle ère de leur vie, soit en gardant les liens avec les anciens, les maîtres, ou alors carrément en oubliant carrément les liens avec les anciens maîtres. Après ces esclaves, nous avons surtout les travailleurs saisonniers qu'on appelle dans l'Afrique de l'Ouest les Nawetan. Vous l'avez vu dans le livre de Philippe David. Le Nawetan, l'expression vient un peu de la saison des pluies, qui est l'appellation de la saison des pluies, qui est le Nawet. C'est la saison humide. Et c'est durant cette saison humide qui, comme on l'a vu, en relation avec la saisonnalité des activités, c'est durant la saison humide où l'activité agricole est une activité très importante qui fait appel à une main-d'œuvre. Et quand la main-d'œuvre familiale ne suffit pas, alors on fait appel à des travailleurs, aux migrants, qui viennent offrir leur travail et établir une sorte de contractualisation, de relation non écrite, mais basée sur les conventions sociales existantes. Alors, donc, il y a une nouvelle relation qui s'établit entre le saisonnier, le travailleur saisonnier, et celui qu'on appelle le yatidi, c'est-à-dire le chef de famille, le maître des terres, et la convention verbale qui s'établit dépend et des lieux et des périodes, mais elle est motivée par le fait que le travailleur est venu, selon l'expression, faire de l'argent frais, gagner de l'argent pour la dot, pour l'impôt ou pour des équipements. Alors, le plus important ici, c'est de constater que le travailleur saisonnier reçoit un lopin de terre qu'il cultive pour son propre compte et il doit des journées de travail au maître qui lui accorde un logis, lui accorde la nourriture. Et en contrepartie, le travailleur saisonnier, le Nawetan, doit consacrer deux journées ou trois de travail sur les champs de son yatigi, du maître. Et ici, ce qui est intéressant du point de vue de l'étymologie, c'est que le maître des terres, appelé Ot, il n'est pas appelé un employeur. Il n'est pas appelé un employeur. Malgré qu'il y ait un contrat oral, et je crois que c'est intéressant également de le noter, mais du point de vue de la relation, il y a une sorte de valeur sociale qui fait qu'il y a une relation de travail, une relation de coopération avec des contreparties déterminées. C'est ça qui constitue un élément très très important et très riche de cette forme de relation entre les travailleurs saisonniers et les maîtres. À côté de ces agriculteurs, nous avons les artisans qui complètent du fait que ces artisans produisent des services, mais qui ont un statut de travailleurs indépendants. En tant que travailleurs indépendants, ils ne font pas appel, comme on l'a vu à des migrants en appoint à des travailleurs en appoint. Au contraire, il s'appuie sur les apprentis, les jeunes. Et ces artisans sont connus comme des professionnels ayant un statut social inférieur et lié à une perception dégradante du travail manuel, autre que l'agriculture. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, tout travail manuel autre que l'agriculture est un travail considéré comme un travail dégradant. Donc, mais je disais que la particularité des artisans, c'est d'avoir une main-d'œuvre jeune enrôlée pour une formation basée sur l'apprentissage. Et les rapports qu'il y a entre les maîtres et les apprentis ne sont pas normés de façon uniforme. Cela dépend de beaucoup de cadres, mais la plupart du temps, le socle sur lequel cette relation s'appuie, c'est le confiage des jeunes. Ce sont les parents qui confient leurs enfants, leur progéniture, à partir de l'âge de 12, 13 ans, jusqu'à à partir de l'adolescence, pour l'apprentissage en métier. Et durant la période d'apprentissage du métier, il n'y a pas un contrat formel, il y a plutôt un contrat moral, de faire acquérir des compétences qui permettront aux jeunes, à l'apprenti, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir, avec la bénédiction, une fois que les compétences sont considérées comme étant des compétences acquises, à partir de ce moment-là, l'apprenti peut être installé, accompagné, et il devient autonome. Mais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de variations, hein, selon les milieux, selon les personnalités, mais la règle générale reste qu'il s'agit de règles tacites. Il y a un avant-dernier point, c'est le travail coopératif ou le travail de reconnaissance. Le travail coopératif est l'expression de formes de solidarité communautaire ou intergénérationnelle. Et cela prend la forme de journée de travail au profit d'un individu, dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle, parce que cette personne, le groupe peut constater que telle personne, pour des raisons indépendantes de cette personne, est dans le besoin pour des raisons de maladie, pour d'autres raisons, et qu'on a besoin de pouvoir exprimer cette solidarité. Cela se voit aussi dans le cadre d'un individu qui doit rendre service à une belle famille, à une future belle famille, à travers la construction de bâtiments ou alors à travers la mobilisation de main-d'œuvre ponctuelle pour une journée ou pour deux journées que le groupe, la classe d'âge, peut être amené à effectivement effectuer au profit d'un individu. Mais cela également peut être le cas d'une activité pour une œuvre collective, généralement, revient à la communauté pour des biens publics. Il y a dans cette catégorie le travail de reconnaissance à une autorité, que ce soit le marabout ou que ce soit le chef, et les journées de mercredi sont considérées comme des journées de reconnaissance pour ces autorités. Ce qui est remarquable, c'est que pour ce type de travail, il n'y a pas de rétribution. Ce que généralement l'autorité assure pour la journée de mobilisation, c'est généralement la cola ou alors la nourriture qui est accordée pour les travailleurs. Enfin, nous avons la catégorie des travailleurs forcés. Il s'agit de services effectués sous une contrainte administrative qui est en décalage avec ce que nous avons décrit tout à l'heure, où nous étions dans le cadre d'une économie sociale, domestique, où il y a des liens entre le chef de famille et les différents éléments, quel que soit leur statut. Le travail, les travailleurs forcés sont apparus comme une catégorie répondant à des besoins liés à la mise en place progressive d'administration coloniale, liés également à l'exploitation des entreprises établies au niveau de la colonie et qui demandent à l'administration un accompagnement du point de vue de la mobilisation des travailleurs. Et ce qui est remarquable, c'est de noter qu'il n'y a pas une réglementation de ce type de travail et que cette réglementation s'est mise à jour progressivement du fait de la pression, surtout de la pression de l'opinion publique internationale. On sait que c'est au tout début, par exemple, c'est le code de l'indigénat du 30 septembre 1887 qui a été utilisé comme l'arsenal juridique par l'administration pour assurer la réquisition de la main-d'œuvre. Et cette réquisition de la main-d'œuvre s'appuie sur l'autorité des chefs indigènes qui assurent la mobilisation des travailleurs à partir des communautés en veillant à ce que la charge ne soit pas supportée par une seule famille, mais que la charge soit répartie au sein de la collectivité pour éviter des mouvements de rébellion ou des mouvements de rejet. C'est essentiellement par ce biais que la plupart des infrastructures ont été construites jusque, disons, la Première Guerre mondiale. Donc, au tout début du système colonial, toutes les infrastructures, que ce soit les infrastructures, que ce soit les bâtiments, ou les premières formes d'exploitation, la mobilisation du travail s'est faite sur la base de la réquisition. Et encore une fois, cette réquisition s'appuie sur le code de l'indigénat, qui n'est pas une législation sociale, mais plutôt un mode d'exception, de répression, de toute forme de résistance ou de rébellion de la part des populations. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale et avec la création de l'Organisation internationale du travail, il y a une législation qui commence à se mettre en place et la prestation apparaît comme une des premières formes de réglementation par l'administration de ce qu'on appelait les corvées. À chaque fois que l'administration avait besoin de construire des routes, il était exigé des populations un nombre de jours déterminé, variant entre 10 à 15 jours selon le plan de campagne établi par l'administrateur dans la circonscription concernée. Et pour l'essentiel, cette forme de corvée, cette forme de formalisation de la prestation va survivre jusqu'en 1937-38, où on a eu la réforme introduite par Marcel de Copé. Et Marcel de Copé introduit le rachat de la prestation qui faisait en sorte que on a la possibilité de pouvoir maintenant, par les montants récupérés du rachat des prestations, alimenter des lignes de crédit et employer une main-d'œuvre pour pouvoir assurer la construction ou l'entretien des routes. Nous avons une troisième forme de travailleurs forcés qu'on appelle le deuxième contingent militaire. Le deuxième contingent militaire, c'est un peu les hommes qui avaient été considérés comme des hommes adultes, mais qui, du point de vue des besoins de l'armée, du point de vue du besoin des tirailleurs, ont été mis en situation de réserve. Et à partir des années 20, l'on considère que cette réserve est susceptible de pouvoir être mobilisée pour la construction des infrastructures. Le test a été fait à Madagascar, ça a été concluant et ça a été élargi en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Les grandes infrastructures de l'Office du Niger doivent beaucoup à la main-d'œuvre du contingent militaire. L'expression que Senghor a qualifiée pour qualifier ces contingents militaires, il les a appelés les tirailleurs de la pelle. C'est-à-dire, ce sont les soldats pour qui c'est la pelle qui remplace le fusil. Et ils ne sont pas invités sur les champs de bataille, mais ils sont mobilisés sur les chantiers de travail. Alors que dans l'armée, on faisait le service militaire durer 3 années, dans le cas du contingent militaire, le service dure 2 ans. Et il y a tout un arsenal, pour faire en sorte que l'uniforme, avec des uniformes, quelques formes de rétribution pour pouvoir créer les conditions d'acceptation de cette forme de réquisition de la main-d'œuvre. Nous avons la main-d'œuvre pénale, je n'insiste pas là-dessus, c'est une vieille tradition. Hein. Et il y a l'écriture obligatoire. L'écriture obligatoire, c'est par la mobilisation de la main-d'œuvre forcée que la plupart des plantations en Côte d'Ivoire, en Guinée, les cultures de bananes, les cultures de café, de cacao, les cultures de sisal dans le Soudan français, le sisal également dans le Sénégal oriental, c'est en s'appuyant sur cette obligation de culture que la main-d'œuvre va être réquisitionnée. Ce qui est intéressant, c'est de constater que pour toutes ces formes de travailleurs forcés, il n'y a pas une relation de contractualisation, mais plutôt une mobilisation variée en articulant d'une part le cadre législatif ou répressif qui est le code de l'indigénat avec l'autorité des chefs indigènes, appuyés bien sûr par les forces paramilitaires qui sont les gardes-cercle, qui sont les forces de répression de toute forme de résistance. C'est à l'issue de la conférence internationale de Genève de 1930 que la France va accepter de réglementer et de mettre le travail indigène et de mettre en place un dispositif pour pouvoir envisager sa suppression. Le tournant interviendra à partir de 1937 avec l'avènement du Front populaire et le gouverneur général Marcel de Copé, qui dans la tradition du Front populaire va effectivement mettre en place un dispositif de modification du travail forcé avec un système de rachat qui va aboutir, qui finira avec une deuxième date très importante, c'est la conférence de Brazzaville de 1944, où le gouverneur de Côte d'Ivoire présente la situation, André Latry présente la situation, la question sociale, et préconise un plan d'abolition du travail forcé sur une période de 5 ans. Mais à la fin de la guerre, vous connaissez l'évolution de la situation politique, et cette évolution de la situation politique va accélérer les réformes, et cela va aboutir à ce qu'on connaît sous la forme de loi Houphouët-Boigny, avec la suppression du travail forcé qui intervient en 1946, et le Code du travail interviendra un peu plus tard avec sur la base de la pression que les syndicalistes articulés au travail des parlementaires et des politiques pour aboutir à l'adoption du Code du travail qui intervient, comme je l'ai dit, en 1952. Pour conclure, je voudrais dire que le travail d'identification des formes pré-capitalistes d'organisation du travail, en même temps que de rétribution, c'est un terrain peu défriché, c'est un terrain sur lequel les normes sont tacites, les règles communautaires pratiquées sont pour l'essentiel des règles acceptées. Je voudrais considérer qu'il y a à l'analyse de ces formes de travail, que ce soit le Nawetana ou que ce soit les travailleurs dépendants, on dirait qu'il y a un souci d'une certaine justice sociale et il y a un équilibre qui fait que, par exemple, le travailleur saisonnier se voit attribuer une partie des terres. Il a la possibilité de travailler sur une partie, sur le lopin de terre qui lui est affecté, même s'il doit travailler également au profit du maître des terres. Il y a donc une compréhension que l'absence de contrôle sur les moyens de production, cette dépossession, ne se traduit pas toujours par un confinement à une activité de travail dont la rémunération effectivement pourrait ne pas satisfaire aux besoins des travailleurs. C'est peut-être, à mon avis, ce souci d'équilibre qui explique un peu le peu de changement, pour ne pas dire d'immobilisme. En tout cas, il y a une sorte d'absence de révolution dans la remise en cause de cet ordre social, et c'est peut-être ça qui fait que la stabilité est là, et c'est peut-être aussi là une raison pour laquelle également ça n'a pas beaucoup attiré l'attention des chercheurs, beaucoup plus polarisés sur les révolutions qui ont introduit des normes de codification. Je vous remercie.